Vous avez peut-être souvenir de ces films de guerre où un adjudant vocifère sur les jeunes recrues qu'elles doivent avoir plus peur de lui que de l'ennemi. Cette peur de l'adjudant est censée assurer qu'ils obéiront bien aux ordres malgré la pression et le danger du combat. En entendant cet évangile, on a l'impression d'être un peu dans la même situation. La question est posée, qui faut-il craindre? Les hommes, ceux qui tuent le corps, ou celui qui peut faire périr dans la géhenne? Parce que celui qui peut faire périr dans la géhenne, c'est Dieu, c'est à lui seul qu'appartient le jugement. Alors cependant, le passage que nous avons entendu a pour conclusion que le moteur de l'action ne sera pas la peur. Quand bien même Dieu serait en position d'exercer une menace bien supérieure à celle des hommes, ce n'est pas par le registre de la menace qu'il opère. C'est vraiment quelque chose d'important à saisir. Dieu aurait la puissance de fonctionner sur le registre de la peur. Vous savez, hein, c'est ce qu'utilisent tous les tyrans, parce qu'ils savent que c'est le plus rapide et le plus efficace. C'est très très lent de convaincre quelqu'un, d'entraîner son adhésion. C'est beaucoup plus rapide de lui faire peur. Mais voilà que, en même temps que l'on nous dit « celui qui aurait vraiment la puissance de vous faire peur, c'est Dieu », il nous est dit que le Père est bienveillant. On nous manifeste le soin particulier qu'il a des moineaux, qui ne valent pourtant pas grand-chose. Et l'on nous dit « nous valons bien plus que les moineaux, plus tous nos cheveux sont comptés », alors même que nous n'en tenons pas le compte. Alors même si avec l'âge on a un petit peu moins de cheveux sur le crâne, nous n'en tenons quand même pas le compte. Et voilà qu'on nous dit que le Seigneur, lui, pour lui est important chacun, jusqu'à chacun de nos cheveux. Et donc on découvre que autant la brute use de sa force pour qu'on serve son caprice, le principe de la brute, serre-moi sinon je te frappe. Autant le Seigneur qui en aurait pourtant les moyens et la puissance n'agit pas ainsi. Il ne nous menace pas pour obtenir quelque chose pour lui, quelque chose pour son intérêt. Et cela nous amène à comprendre la chose suivante, c'est que quand Dieu nous enseigne, quand Dieu prescrit, quand Dieu ordonne, ce n'est pas pour son intérêt personnel. Ce n'est pas pour son intérêt personnel, mais c'est pour le nôtre. Quand Dieu prescrit, c'est pour notre bien, c'est en vue de notre bien. Et si on y réfléchit, c'est assez simple, parce que Dieu est Dieu, il n'a besoin de rien. Il n'y a rien dont il pourrait manquer et que la créature devrait lui fournir. Dieu est Dieu de toujours à toujours. Il n'est pas plus ou moins Dieu parce qu'il a plus ou moins d'adorateurs, parce qu'on lui fait plus ou moins d'offrandes ou de sacrifices. Il y a là quelque chose de fondamental à comprendre. Le commandement de Dieu est finalisé par notre bien. Il n'est pas arbitraire. Alors je voudrais m'arrêter un instant là-dessus, comprendre que la parole de Dieu est finalisée par notre bien, elle n'est pas arbitraire, parce que sinon nous allons avoir une représentation de Dieu comme une sorte de sadique rémunérateur. Alors on imagine Dieu, c'est celui qui aimerait bien restreindre notre liberté, nous torturer un peu. Ah non, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Et pourtant c'est très jouissif. Pour nous dire ensuite, ah, tu m'as bien laissé te torturer pendant ta vie, tu m'as présenté de nombreux kilos de souffrance, alors je vais te récompenser. Alors si c'est la représentation que nous nous faisons de Dieu, ça c'est la représentation que le serpent de la Genèse a suggéré à Adam et Ève. L'alliance avec Dieu provoquerait une atrophie de notre vie, une amputation de nos joies. C'est d'ailleurs assez souvent comme ça que le monde perçoit la foi et perçoit les chrétiens, les prêtres. Ah oui, c'est ceux qui ne peuvent pas se marier. Les jeunes chrétiens, c'est ceux qui ne peuvent pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Les chrétiens, ah, c'est ceux qui ne peuvent pas manger de viande le vendredi. Ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ont amputé leur existence. À l'abbaye d'Abou Gosh en Israël, il y a un moine qui présente régulièrement aux jeunes Israéliens qui font leur service militaire la foi chrétienne. Et il racontait que c'était une des premières choses qu'il devait rectifier assez vigoureusement, parce que en hébreu, les chrétiens sont appelés les Notsrim, c'est en référence à Nazareth. On pourrait traduire les Nazaréniens, ceux qui sont les disciples du Nazarénien. Mais Notsrim, c'est aussi de la racine de Natsar, qui donnait en hébreu les nazirs. Alors les nazirs, de fait, c'était ceux qui s'abstenaient. Ils s'abstenaient de toute boisson fermentée, ils s'abstenaient de viande. Et donc, dans leur esprit, quand ils vont à la rencontre des chrétiens, ils disent, leur première question, c'est de quoi est-ce que vous vous abstenez ? Comme si le fait d'être chrétien, c'était à travers une pratique d'abstinence. Donc il y a facilement une erreur à assimiler l'alliance avec Dieu à une pratique d'abstinence au lieu de comprendre une relation. Quand Dieu commande, je le répète, c'est pour notre bien. Et je voudrais donner un indice qui est à la fois discret et pourtant très clair dans la révélation qui est faite à Abraham. Avec Abraham, on a comme le commencement de l'histoire du salut. Et vous vous souvenez peut-être le commandement que Dieu adresse à Abraham. Généralement, on lit ceci dans la traduction. « Va, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. » Littéralement, il est écrit en hébreu « Lech lecha ». Qu'est-ce que ça veut dire ?« Va pour toi ». La traduction, généralement, « mange le pour toi ».« Va pour toi ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire « va pour moi, j'ai besoin de toi que tu ailles me déplacer telle ou telle chose ou que tu ailles me construire telle ou telle chose ». Si je t'envoie, c'est pour toi, c'est pour ton bien. C'est toi qui trouveras ta vie, c'est tu y trouveras ton épanouissement, tu y trouveras ta croissance. Ce que Dieu commande est en fait conforme à notre bien. Nous qui avons été créés à son image, en vue de la ressemblance, pour devenir des fils et des filles dans l'Alliance, pour participer à la communion d'amour même de Dieu. Les commandements de Dieu ne sont pas des entraves. Si je devais prendre une image, ils sont des garde-fous. Vous savez, sur les ponts, les garde-fous n'ont pas pour objet de nous empêcher de passer, ils ont pour objet de nous empêcher de tomber à l'eau, et donc de pouvoir poursuivre notre passage jusqu'à l'autre rive. Pour prendre encore une image, nous le voyons bien, autour des plaisirs de la table. Nous aimons bien manger, là j'en suis à ma 7e louche de mousse au chocolat, je me dirais bien qu'en fait il en reste encore au moins 4 dans le plat. Oui, sauf que si je continue, je vais arriver à l'indigestion. Si je m'arrête, c'est pas par haine de la nourriture, c'est parce qu'il y a une limite réelle de ma capacité à ingérer proprement les choses, à les digérer proprement. Alors certes, les Romains ont inventé le vomitorium pour prolonger leurs orgies, mais il faut voir dans quel état cela laissait l'estomac et laissait la dentition. Il y a un principe de réalité que nous sommes appelés à découvrir. Le Seigneur, par ses commandements, nous aide à accueillir, à intégrer ce principe de réalité. La parole de Dieu nous aide à intégrer ce principe de réalité. Et le témoignage que nous rendons en disant « c'est à travers le Christ que nous voyons ce que signifie la capacité d'aimer, la vérité de la capacité d'aimer ». Le monde souvent y résiste parce qu'il trouve que c'est un obstacle à notre capacité de jouir, alors que c'est un indice pour que nous puissions effectivement grandir. Le vide qui parfois étreint le cœur de l'homme justement quand il vit n'importe comment. Ce vide, on peut se dire, là j'ai passé tout mon après-midi et toute ma soirée à enchaîner série après série. Alors au moment où j'y étais, j'étais comme hypnotisé, mais quand j'ai eu fini, il y a comme un trou qui reste dans mon cœur. Je n'ai pas une paix. Je suis peut-être épuisé, mais il n'y a pas une paix qui reste dans mon cœur. Alors que j'ai pu faire d'autres expériences, peut-être que je suis allé visiter un malade, et je me suis rendu compte qu'alors que j'avais peur d'y aller, je me disais, j'ai peut-être autre chose à faire, je me suis rendu compte que mon cœur a été nourri. Je voudrais évoquer juste un petit témoignage de l'époque où j'étais à la maison Saint-Augustin, donc c'était l'année du discernement avant l'entrée au séminaire. Alors la visite des malades, bon, c'était la chose qui me terrorisait. Quand j'allais dans un hôpital, c'est moi qui faisais un malaise. Voilà, donc j'étais obligé de m'asseoir de l'air comme ça. Voilà. Donc la première fois, j'y suis allé avec un camarade, donc ça entre guillemets, s'est bien passé, c'est surtout lui qui intervenait, moi j'ai fini en nage. Et la deuxième fois, ah non, il a fallu y aller séparément. Ah bon, bah on va y aller séparément. Et je tombe d'abord sur une personne, justement, qui souffrait d'un cancer avec une infection particulière et qui racontait justement les douleurs qu'elle éprouvait. À un moment, il y a un regard d'inquiétude qui passe sur son visage. Elle me dit, mais ce que je vous dis vous fait sourire, vous trouvez ça drôle? Et là, je lui dis, non, mais comme je ne peux rien faire pour soulager votre douleur physique, j'essaie au moins de vous sourire. À ce moment-là, son visage s'est détendu. Ça a été le moment où, de ce visage qui était marqué par l'angoisse, qui était marqué par la souffrance, il y a eu à la fois un vrai sourire et un moment de détente. Et c'est une chose que j'ai vue ici, c'est qu'il y avait une capacité qui me dépassait de pouvoir apporter une consolation. Cette consolation, je ne l'imaginais pas en y allant. C'était, je ne vais pas dire une demi-terreur, que de dire « mince, je vais devoir y aller tout seul au départ ». Ce n'est pas quelque chose où j'avais mon petit carnet, les bonnes réponses. Voilà, s'il dit ceci, répondez cela. Je n'ai pas soulagé sa douleur, mais j'ai montré, il m'a été donné de montrer, il a été donné, si on peut dire, à travers ma présence, au Seigneur de montrer une consolation à cette personne. Eh bien, à travers une activité qui n'était pas l'activité première de mon goût, « Ah, je vais m'éclater en allant faire ça !» Non, ce n'était pas l'idée de ça. Pourtant, on découvre à travers le don aux autres une paix qui remplit le cœur. Et c'est ce que fait le Seigneur tout au long de son évangile. Il nous montre ce qui remplit notre cœur, ce qui construit notre cœur, et à l'inverse, ce qui le laisse vide. Eh bien, frères et sœurs, en ce dimanche, puissions-nous demander cette grâce de poser nos yeux sur le témoignage de Jésus, comment il vit, et de le voir, de le regarder, non pas comme l'empêcheur de tourner en rond, comme l'empêcheur de goûter à la vie, mais au contraire, celui qui nous révèle les dimensions de l'existence qui remplissent le cœur, qui apaisent le cœur, et qui donne de rejoindre le cœur de ceux que nous rencontrons. Ça a été la joie de Dieu de nous faire découvrir. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que quelque part vous avez goûté à quelque chose de cela. Sinon vous ne seriez pas du tout là. Vous serez peut-être dehors, parce qu'il fait beau dans le parc. Si vous êtes ici, vous avez goûté quelque part à cette joie de Dieu, à cette joie d'être fils et fille. Eh bien, le Seigneur a voulu dire, à travers toi, tu pourras le rappeler à un autre cœur. Tu pourras le rappeler qui il est vraiment. Seigneur, en cette Eucharistie, donne-nous de te regarder, toi le Fils unique, pour que nous retrouvions la plénitude de la joie d'être fils et fille bien-aimés du Père, et la témoigner à ceux que nous rencontrons, ceux qui ne savent plus où regarder, ceux qui ne soivent plus qu'expérimenter pour trouver cette paix qui vient d'être fils ou fille bien-aimée du Père. Amen.